Inter, le 18-20.
Et c'est le téléphone sonne. Le Conseil des ministres examine mercredi le projet de loi sur l'asile et l'immigration, texte très critiqué par les associations d'aide aux migrants et qui pourrait mettre à rude épreuve la majorité où certains contestent la logique répressive du texte. Ce projet de loi, son titre officiel pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, ce projet de loi est équilibré, dit le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et reprend selon le gouvernement deux grands principes. La France doit accueillir les réfugiés, mais elle ne peut accueillir tous les migrants économiques. Alors, sur le contenu de ce texte, ses conséquences, appelez-nous au standard 01 45 24 7000, Twitter, le hashtag Telson et bien sûr le site de l'émission sur franceinter.fr.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Et un premier appel, c'est Paul qui est à Paris, si je lis bien. Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir et merci de la qualité de votre émission. Pierre Vieille, bonsoir. En fait, moi, la réflexion que j'avais, tout simplement, c'est en tant que responsable politique aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la mesure qui a été prise, la première mesure qui a été prise par Mme Pécresse le 21 janvier, de supprimer les aides de transport aux travailleurs, aux immigrés illégaux, ce qui a pour conséquence effectivement de les fragiliser encore plus. Et je dirais, le budget est tellement insignifiant par rapport à d'autres budgets, comme par exemple, ça va être un peu politique bien sûr, mais il faut l'être, l'affaire Big Magnon avec le dépassement de 22 millions de M. Sarkozy. Oui. Comment est-ce qu'on peut s'acharner sur des gens déjà fragilisés? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Moi non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
On va vous répondre, Paul. Nos invités dans ce studio ce soir, Élise Fagelès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche de Paris, rapporteur du projet de loi Asile-Immigration. Mmh. Et puis Jean-Claude Masse, bonsoir Jean-Claude Masse.
Bonsoir.
Secrétaire général de la CIMAD, association qui aide les personnes migrantes et les demandeurs d'asile. La CIMAD qui demande officiellement le retrait du projet de loi Asile-Immigration. Alors, cette première question de Paul qui a le sentiment qu'on s'acharne sur les migrants en leur supprimant des aides pour les transports sur ce dossier. Élise Fagelès.
Écoutez, on s'éloigne un petit peu de notre projet de loi. Bon, c'est dire qu'il y a parfois des positions politiques qui ne se rejoignent pas tant quand on nous dit que on est nous sur des positions extrêmement à droite. Il s'agit pas de s'acharner sur les migrants. En tout cas, ça c'est une décision de Valérie Pécresse. Il s'agit nous déjà de bien voir que qu'il y a une distinction entre l'obligation de la France, parce que c'est l'histoire de la France et l'identité de la France, de encore mieux accueillir les demandeurs d'asile et les réfugiés, beaucoup mieux les intégrer, c'est tout le sens des propositions d'Aurélien Taché, et de faire appliquer la loi pour ce qui est des personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Alors après, comment on fait appliquer la loi? Eh bien, c'est de permettre en effet une reconduite, voire un retour volontaire. C'est ça qui est important aussi. Il ne s'agit pas de s'acharner du tout. C'est pas du tout, en tout cas, l'objectif de ce texte de loi.
Je vais donner dans quelques instants les grandes lignes de ce projet de loi. Mais Jean-Claude Masse, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'acharnement contre les migrants, que ce soit avec ce texte ou encore les décisions de la région Île-de-France?
Oui, globalement, nous sommes dans un temps, une séquence politique où ces possibilités d'acharnement existent et se répètent, alors que ça soit dans l'opposition à travers des prises des décisions politiques de la présidente de la région Île-de-France, mais la politique actuelle migratoire menée par le gouvernement induit aussi et produit aussi de l'acharnement, des précarisations, de l'exclusion. On va y revenir et ce projet de loi vient, disons, prolonger cette logique de politique migratoire qui est d'abord répressive et attentatoire aux droits des personnes.
Alors les principales mesures de ce texte qui sera examiné en Conseil des ministres mercredi, je les rappelle, réduction des délais d'instruction de la demande d'asile à 6 mois contre 11 ou 12 actuellement, réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d'asile après l'entrée en France, réduction du délai de recours de 1 mois à 15 jours, augmentation de la rétention administrative de 45 à 90 jours, ça fait 3 mois, avec une prolongation possible de 2 semaines, augmentation de 16 à 24 heures de la retenue administrative, anciennement la garde à vue pour vérification du droit au séjour, possibilité de recourir à l'assignation à résidence pendant le délai de départ, et puis une aide au retour volontaire possible pour un étranger placé en rétention. Sur tous ces points, eh bien, on va débattre ce soir. Jean-Claude Mas, vous vouliez...
Oui, juste dire que la liste que vous venez d'énumérer montre bien que ce projet n'est pas équilibré et que le gouvernement aurait à gagner à assumer le centre de gravité de ce projet, qui est un centre de gravité qui penche résolument vers une politique de contrôle, de tri et d'expulsion avant tout. Je trouve que ça serait un langage de vérité qui serait porté en direction de l'opinion et des Français, que de signifier cela et non pas rester dans une posture d'un équilibre qui n'existe pas.
Le gouvernement dit de son côté, ce texte, eh bien, il est équilibré, nous voulons mieux accueillir et mieux renvoyer.
Oui, Élise Majelès. Dans les dispositions que vous venez d'énumérer, il y a, faut pas laisser la confusion s'introduire. Quand on réduit les délais de procédure pour les demandeurs d'asile, c'est vraiment une mesure d'humanité. Quand on arrive en France et qu'on demande l'asile, aujourd'hui, il y a environ 14 mois de traitement de la demande. Moi, je ne pense pas que ce soit bien de laisser des personnes comme ça 14 mois sans connaître leur statut, sans savoir s'ils auront vocation ou non à rester sur le territoire. Moi, j'ai sur mon terrain, sur ma circonscription, une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, donc du pré-accueil où ça ne fonctionne pas. On voit bien qu'avant même d'avoir un rendez-vous en préfecture, on attend déjà 3 semaines. Il faut réduire ces délais. Il faut que les personnes sachent le plus rapidement possible quel sera son statut et ensuite rentrer très vite dans le parcours d'intégration. C'est ça l'honneur de la France. C'est d'accueillir les gens qui ont besoin de notre protection et de les intégrer. Parce que c'est bien d'avoir de l'humanité, il faut réfléchir toujours aux conséquences politiques que ça entraîne. Quand on accueille bien, il faut savoir bien intégrer et mettre le paquet sur l'intégration. C'est prévu. Et franchement, ça, c'est des vraies mesures d'humanité. Après, le discours de vérité, c'est aussi dire qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Que la situation socio-économique de la France nous permet, parce qu'on a un devoir d'accueillir les réfugiés, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, en effet. Et ce discours de vérité, c'est de dire qu'à partir du moment où on n'est pas réfugié, où on n'a pas la protection de la France, on doit pouvoir être conduit, il faut appliquer la loi. C'est ça le discours de vérité.
On est au cœur du débat. Jean-Claude Mas vous répond, secrétaire général de la CIMADE.
S'agissant de l'asile dans le cadre de ce projet de loi, le principe d'une réduction du délai d'instruction, oui, mais pas au détriment de la qualité de l'instruction et au détriment des droits des personnes. Et on peut citer un certain nombre de mesures de ce projet de loi qui induisent des reculs de droits pour les personnes demandeurs d'asile, puisqu'on réduit le délai de recours de ces personnes-là, on envisage la vidéo-audience. Vous imaginez une personne qui puisse se défendre convenablement à travers des écrans interposés face à un juge devant la CNDA. On pourrait multiplier les exemples de cantonnement ou de possibilités de procédures accélérées de la demande d'asile qui sont élargies à d'autres cas. Donc on veut réduire le délai général, mais au détriment du droit des personnes.
C'est vous qui le dites. Je vous assure
que déjà,
on a un travail parlementaire qui commence, c'est-à-dire qu'on va mener des auditions le plus complètes possible. Évidemment, on rencontrera la CIMADE. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les parlementaires, donc moi c'est mon rôle en tant que rapporteur à l'Assemblée nationale, qu'on puisse voir quelle est l'efficacité, puisque l'efficacité est recherchée tant pour améliorer l'accueil des demandeurs d'asile, mais non, on va essayer aussi de le viser ça en étant le plus vigilant possible sur le respect des droits. Et sachez que dans notre groupe, il y a beaucoup de doutes qui sont émis, justement parce qu'on veut pouvoir améliorer ça. On rentre en discussion avec le gouvernement et la phase d'audition nous servira à ça, à avoir, à être le plus près possible de, vraiment de l'objectif d'équilibre dont on parlait, beaucoup d'humanité, et il faut en effet dans ce discours de vérité.
On va au standard. Marc, bonsoir Marc, merci d'être avec nous, d'écouter France Inter et le téléphone sonne. C'est à vous maintenant.
Je vous remercie de prendre ma question et bravo pour vos émissions. Bon, je suis près de Calais et je peux vous dire que depuis 5 ans, je vais quasiment 2 à 3 fois par semaine sur place et je suis en lien avec, que ce soit l'Auberge des Migrants, Salam, le Secours Catholique, Emmaüs, etc. Toutes ces associations, et la CIMADE aussi, bien sûr, et bien d'autres organisations qui font un travail formidable sur place. Alors, bien souvent, ces associations sont considérées comme des activistes, des gens qui sont plus des no-borders. On a des propos de Madame Natacha Bouchard qui sont un peu disproportionnés par rapport à la réalité. Ce que je me dis simplement, c'est est-ce que ce projet a été fait avec une écoute approfondie des propos ou des témoignages de ces associations qui sont sur le terrain et qui se battent et qui font un travail formidable et qui ne sont pas tous des excités.
Élise Fagelès vous répond, députée de La République En Marche, je rappelle, de Paris, qui est rapporteur du projet de loi Asile et Migration.
Évidemment qu'on écoute les associations, il faut évidemment travailler avec les associations. Notre but n'est pas du tout de rompre avec les associations, puisque c'est celles qui travaillent au plus près du terrain. Mais quand on parlait il y a un instant justement de réduire les procédures, je vous parlais d'une plateforme d'accueil, de pré-accueil pour les demandeurs d'asile dans ma circonscription, qui est gérée par France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, qui est une association vraiment qui œuvre sur le terrain quotidiennement, cette association demande même qu'on puisse réduire les délais en début de procédure, parce que c'est du temps perdu pour les demandeurs d'asile. Donc ça, c'est pas au détriment de la qualité de l'accueil. Au contraire, même France Terre d'Asile le demande comme ça. Par ailleurs, sur la qualité du dossier et de la manière dont on va traiter le dossier, je suis en lien permanent avec Pascal Brice, qui est le directeur de l'OFPRA. C'est en termes de notification, en termes de lancement de la procédure qu'on veut gagner des délais, mais pas du tout en termes de traitement du dossier. Ce délai-là, il a déjà été réduit, il le sait bien, Pascal Brice. C'est pas là-dessus qu'on veut travailler, puisque, en effet, l'accompagnement des demandeurs d'asile pour préparer leur récit, pour que leur dossier soit correctement étudié par l'OFPRA, on ne veut pas y toucher. On veut que ça reste extrêmement qualitatif. En revanche, il y a beaucoup de temps à gagner sur des procédures, sur de la bureaucratie, sur du temps qui est perdu avant même l'inscription en guichet unique à la préfecture. Et ça, tout le monde a y gagné, les associations comme les demandeurs d'asile.
Jean-Claude Mas, la CIMAD.
Oui, en amont de l'OFPRA, vous avez raison, c'est là où se pose le nœud du problème et qu'il faut essayer de dénouer. Mais après l'OFPRA, ce projet de loi réduit les droits de la défense, puisqu'il réduit les délais de recours, notamment des personnes, quand elles sont rejetées par une décision de l'OFPRA. Sur l'histoire de l'écoute des associations, puisque c'était la question de l'auditeur, oui. On a effectivement été reçu par le ministre de l'Intérieur, son cabinet et puis le Premier ministre, mais sans résultat. C'est-à-dire que l'impact de nos échanges et de nos observations d'acteurs de terrain depuis des années et des années sur les territoires plus près des personnes migrantes n'a eu aucun effet sur la décision, puisque le projet de loi qui va être soumis mercredi, visiblement, et la copie conforme de ce qu'il était il y a quelques mois.
On commence le travail parlementaire et
vous allez avoir un dialogue avec les députés. Choses seront différentes.
Voilà. Réaction d'auditeurs sur le site de l'émission, je vous lis. Vous voulez augmenter le temps de rétention administrative à 90 jours, donc 3 mois. Avez-vous vu l'état des zones d'attente, des centres de rétention administrative? C'est le dénuement, c'est souvent la saleté, une sorte de prison. Est-ce que vous avez les moyens de la nouvelle politique migratoire que vous voulez mettre en place? Voilà cette question-réponse de Élise Fagelès.
Alors, on a eu de nombreuses visites des centres de rétention administrative la semaine dernière, les députés de la commission des lois, tout groupe politique confondu, parce qu'il faut être au plus près du réel. Il y a des centres de rétention administrative qui sont dans un très mauvais état, où ça se passe pas bien.
Ces élus ont été troublés parce qu'ils ont
et vu. Ça n'est pas le cas pour tous. Il y a des centres de rétention qui sont en meilleur état, qui ne sont pas du tout pleins, ou qui sont à moitié pleins. Donc déjà, la situation n'est pas la même sur tout le territoire. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations qui se posent, notamment sur l'oisiveté, l'inactivité des personnes qui sont là. Donc c'est vrai que si on allonge le délai de rétention, il faut beaucoup réfléchir à ça. Nous, à nouveau, ce qu'on veut, c'est avoir une vraie connaissance pratique. Si l'efficacité qui est recherchée, c'est de permettre des meilleures reconduites, si ces 90 jours sont complètement nécessaires, mais il faut discuter avec les responsables des CRA, mais avec les forces de police, avec les services préfectoraux, peut-être qu'il y a moyen de réfléchir aussi à ce délai, de voir, de faire des contre-propositions constructives. Nous, le but, c'est vraiment à nouveau de garantir le droit des personnes, tout en étant vraiment honnête sur le fait qu'on veut avoir plus de reconduites. Aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée. Pour les personnes qui sont en situation irrégulière, ça n'est pas possible d'avoir un aussi faible taux de reconduite. Après, on se retrouve avec des personnes qui font du travail illégal, du travail au noir, qui sont aussi exploitées en termes de logement. Ça n'est pas possible aussi de les garder sur le territoire. Si la loi considère qu'on ne peut pas garder tout le monde parce qu'il y a des personnes en situation de migration économique et il n'y a aucun parti politique qui propose d'ouvrir les frontières en grand, ça veut dire que la loi, il faut l'appliquer. Donc, il faut l'appliquer au mieux, le plus humainement possible, mais il faut trouver les moyens de l'appliquer efficacement.
Jean-Claude Mas, ces centres de rétention administrative, leur état, qu'est-ce que vous en pensez?
Encore faut-il que la loi soit bonne, légitime et soit adaptée. On ne peut pas comme ça se consacrer qu'une loi sans se questionner aussi sur ses fondements et sur son sens. Sur les centres de rétention, nous sommes dans des endroits qui sont des lieux de privation et d'enfermement qui s'apparentent à des milieux carcéraux et qui développent des conséquences traumatiques pour les personnes. Vous y êtes allé la semaine dernière.
C'est pas le cas pour tous. Les personnes sont libres.
Vous y êtes allé avec les parlementaires. Nous y sommes depuis 30 ans, oui, en centre de rétention auprès des personnes étrangères.
Ce n'est pas une prison pour autant.
Ce n'est pas une prison au sens juridique du terme, mais il y a des sas, il y a des verrous, il y a des policiers, il y a...
Les personnes ne sont pas enfermées en cellule. Ils sont libres dans la journée. Ils peuvent même en sortir dans la journée.
Il y a des enfermements et il y a même des familles qui sont enfermées. L'expérience montre que si les personnes n'ont pas été effectivement expulsées au bout d'une douzaine de jours, ils ne le seront pas. Très peu de gens le sont, in fine, après 12 jours de maintien en rétention. Jusqu'à maintenant, ils pouvaient rester enfermés jusqu'à 45 jours. Le fait de doubler jusqu'à 90, voire d'aller jusqu'à 131 jours, parce que si les personnes refusent de partir ou font valoir des droits, un droit à la santé par exemple, ou le droit d'asile en fin de rétention, on va leur dire, vous faites valoir des droits, on va vous maintenir en rétention encore davantage. Nous, on dit qu'il y a un risque important que cette logique de prolongation de la durée de la rétention produise des dégâts et accentue la maltraitance, alors même que les effets seront ineffectifs.
Il y a des procédures extrêmement humaines en France. Par exemple, la procédure d'étrangers malades. Le fait qu'on accueille en France des étrangers pour pouvoir les soigner, on est quasiment le seul pays au monde à avoir cette procédure-là. La procédure du droit d'asile, on veut vraiment l'améliorer et on veut mettre beaucoup d'argent, du budget pour une meilleure intégration. On ne peut pas permettre que ces procédures soient dévoyées. Donc, à un moment donné, il faut aussi trouver le moyen par des procédure, en effet, de faire appliquer les reconduites à partir du moment où tous les dossiers ont été, les procédures sont arrivées à leur terme. À un moment donné, quand il y a des décisions de quitter le territoire français, ça c'est important aussi parce que je
crois
qu'on
est... Mais vous avez les moyens d'appliquer cette politique de reconduite ?
Alors, il y a déjà du budget, il y a eu une augmentation du budget, plus de 26% pour cette année, le budget asile-immigration. Il y a des places en centre de rétention qui vont être ouvertes, parce qu'on sait qu'en effet, il y a certains centres de rétention qui sont saturés. Donc oui, ce qu'il faut déjà, c'est permettre les procédures qui vont, parce qu'il y a de nombreux blocages à de nombreux niveaux de la procédure qui peuvent le permettre, et en effet que le budget suive, donc ça a déjà été le cas, une augmentation cette année, et puis on voit concrètement comment les choses se passent, et puis les budgets suivront.
Concrètement, ça veut dire quoi?
On voit,
il faut du
en effet, déjà, déjà
non, effectuer il faut que, ces il faut reconduites.
Que la, il faut que la loi passe dans les conditions sur lesquelles on va travailler, avec le budget qui a déjà été augmenté en 2018, après on fait un retour d'expérience, et c'est avec ce retour d'expérience sur les nouvelles propositions et sur le nouveau budget, eh bien qu'on s'adapte et qu'on avance comme ça au fur et à mesure du quinquennat.
Nicolas est en ligne avec nous. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir. Alors déjà, madame, qui n'est pas madame de la République En Marche, c'est plutôt La République au pas de loi, parce que soit vous mentez, soit vous êtes totalement incompétente. Les chiffres de l'asile en France, et la France est l'un des pays où on accueille le moins les gens, où la politique est déjà la plus répressive. Et ce que vous faites, madame, c'est rompre avec une tradition républicaine et universelle, justement, d'accueil de la France. Et donc, vous êtes en train, finalement, pour des raisons purement politiciennes, et on voit bien que les masques tombent sur ce que c'est que la Macronie, c'est exactement ça, c'est que vous faites une politique de droite, voire d'extrême droite, puis après, vous allez donner des petites bribes de gauche. Et vous êtes prêts pour ça, à rompre avec cette universalité. C'est là-dessus que vous chuterez, madame. C'est là-dessus que votre cadre chutera. C'est sur cette espèce de médiocrité interne et fonctionnelle de votre mouvement qui est de plaire à l'un et de plaire à l'autre.
Alors,
parce que là, sur des choix courageux à faire, que sont l'asile, qui relèvent et qui révèlent des drames humains, de véritables drames humains qui concernent la France entière et des gens qui souffrent et qui meurent, vous êtes capable de faire une petite politique et des petits calculs cyniques, c'est à vomir.
Alors, Nicolas,
je le dis vraiment avec de l'émotion dans la voix, tellement vos propos, madame, me révulsent et me font honte.
Alors, Nicolas, Élise Fajgles, qui est députée La République En Marche et rapporteure de ce projet de loi asile-immigration, va vous répondre. Vous avez été sévèrement mise en cause, madame.
Je comprends l'émotion. C'est un sujet qui touche à notre humanité profonde, donc c'est normal que chacun ait beaucoup d'émotions. On est tous marqués par les parcours des personnes qui fuient les guerres et les persécutions. En revanche, je ne peux pas vous laisser dire qu'on va refuser les demandeurs d'asile. On a créé des places en centre intégré. c'est-à-dire un centre où on va héberger tout de suite les demandeurs d'asile dès qu'ils sont sur notre territoire. On en a créé là en novembre, en décembre. On va en créer dans toute la France. Des centres où on héberge, où on étudie la situation administrative, on va commencer à apprendre la langue dès le premier jour, où on a un suivi sanitaire. Ça n'existait pas. Ça s'appelle des CAES. Ça, c'est vraiment l'humanité profonde. Ça n'avait jamais été fait. Ça a commencé cette année. Il y en aura un par département. C'est ça l'humanité. C'est-à-dire de plus laisser les campements sauvages. Ça, nous le faisons. Le fait de aussi créer des places en préfecture pour que les gens n'attendent pas. Les oui. files d'attente qu'on voit, les gens qu'on attend sur le trottoir, qu'on voit sur le trottoir, attendent pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous, eh bien on met du budget et on met du personnel pour qu'ils soient beaucoup plus rapidement accueillis.
Mais est-ce que...
Ça, c'est de l'humanité. On ne peut pas dire qu'on va réduire l'accueil. Au contraire, d'ailleurs, il y a des procédures très innovantes sur lesquelles s'est engagé Emmanuel Macron, qui sont ces procédures de réinstallation. C'est-à-dire que dans les camps du HCR, il y a des personnes qui sont sélectionnées par le HCR, des personnes pour leur grande vulnérabilité, que ce soit au Sahel par exemple, que ce soit au Liban, pour les personnes donc qui sont sur les terrains de guerre, on va dire en Syrie, en Irak, etc. Ces personnes-là, on commence à les accueillir, c'est-à-dire que l'OFPRA va étudier leur situation dans les camps du HCR, ils sont accueillis en France déjà avec le statut de réfugié et on les intègre
Mais
à leur arrivée en France.
Assumez,
ça n'a jamais été fait avant.
Est-ce que vous assumez vraiment cette sorte de tri qu'il y aura au sein des migrants? C'est le mot qui est employé très, très souvent. D'un côté, ceux qui demandent l'asile politique parce qu'ils sont persécutés, et de l'autre côté, des migrants économiques, et pour eux, ce sera non.
Qui, monsieur, a proposé à ce qu'on ouvre nos frontières à toutes les migrations économiques? Alors moi, je vais vous dire, l'identité d'un pays, c'est des choses immuables qui ne bougent pas. Le droit d'asile, c'est important qu'il ne bouge pas, qu'on le préserve, mais même qu'on l'améliore, c'est ce qu'on veut. Mais il y a des choses qui évoluent. Aujourd'hui, il y a une situation socio-économique avec une tension sur le chômage, on le sait bien. On ne peut pas, mais il n'y a pas un parti politique qui propose d'ouvrir grand les frontières à tous les migrants économiques. Parce que c'est vrai qu'on est en tension sur le chômage, sur le logement, sur un certain nombre d'indicateurs socio-économiques. Il y a eu des périodes où la France avait besoin des migrations. Et aujourd'hui, les enfants de ces migrants, d'après-guerre, il faut pouvoir les intégrer. Et on sait encore qu'il y a des tensions là-dessus. Donc moi, honnêtement, je n'aurais pas ce mensonge que de dire qu'il faut ouvrir à tout le monde parce que personne ne le fait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être clair là-dessus, être honnête là-dessus et être efficace parce que ceux qui, en effet, ont besoin de notre protection, ils ont besoin aussi de l'argent pour bien les intégrer.
Jean-Claude Mas, que répondez-vous à ce que vient de dire Élise Fajgeles?
Plusieurs éléments de réponse, si je peux revenir rapidement en arrière. Sur les centres de rétention, ce n'est pas qu'une histoire d'argent et de place. C'est une histoire de dignité et de respect des droits fondamentaux des personnes. Et vous ne pouvez pas banaliser la privation de liberté comme vous le faites, au seul motif que les personnes n'ont pas les bons papiers au bon moment. Sur la question de l'asile en tant que tel, les centres d'accueil et d'examen des situations dont vous parlez, ce ne sont pas des lieux d'humanité. Enfin, ce sont des lieux, effectivement, de contrôle et de tri des personnes en tant que tel.
De l'hébergement, et vous pensez qu'il vaut mieux qu'ils soient dans les campements sauvages, monsieur?
Les personnes ne veulent pas aller dans ces centres-là pour
on a mis à l'abri 1500 personnes,
eux, 1500
personnes
confiance.
En novembre et en décembre.
Je vais les laisser parler, si vous me laissez répondre. Vous faites l'apanage de ces endroits où on est dans une logique de contrôle et de tri, au point que les personnes n'osent plus aller dans ces centres parce qu'ils ne sont plus en confiance, qu'ils préfèrent rester errer dans la rue plutôt que d'aller dans ces centres où ils savent que pour certains d'entre eux, soit ils seront mis assignés à résidence, soit ils seront mis en rétention au détriment d'une mise à l'abri simplement humanitaire.
Ça rejoint
l'enjeu
plein,
de la circulaire dont on pourrait parler aussi et qui est en lien avec le projet de loi.
Vous êtes dans une posture parce que celui de Sergique Pontoise qui a ouvert en novembre, il est plein. C'est des personnes, d'ailleurs de ma circonscription, 1500 personnes ont été mises à l'abri, des personnes qui étaient dans des campements, des personnes qui demandaient justement, qui voulaient s'inscrire et qui sont hébergées aujourd'hui.
Le temps passe, c'est ça. Réaction d'auditeur Jean-Claude Mas, juste un point sur ce problème du tri, les immigrés, les migrants qui fuient les dictatures et les migrants économiques. Patrice nous a écrit, les immigrés fuyant la guerre ont vocation à être acceptés pour ne pas mourir par les armes. Les immigrés pudiquement appelés économiques fuyant la famine ont-ils vocation à mourir de faim? Jean-Claude Mas.
Est-ce qu'il faut opposer les misérabilismes? Est-ce qu'il faut opposer les personnes qui sont dans des situations aussi dramatiques que des suites de guerre ou des suites de misère ou de pauvreté? Nous, on pense que tous les motifs sont légitimes de migration et que la migration est un fait naturel. Ça ne veut pas dire, je vais pas vous faire ce cadeau-là de vous dire qu'il faut ouvrir toutes les frontières aujourd'hui, mais pourquoi pas? Je pense qu'à moyen terme, il faudrait y réfléchir parce qu'on pourrait penser des logiques de circulation et d'aller-retour, de visa pluri-entrée qui pourraient permettre justement des gens qui puissent rentrer et sortir et donc ne pas les bloquer d'un côté ou de l'autre de la forteresse européenne ou française, mais au-delà de de ça. On est aujourd'hui dans une logique où l'immigration autre que asile est tellement restreinte, tellement réduite que les gens n'ont pas d'autre choix parfois que de demander l'asile. Et donc l'enjeu, c'est pas de penser que l'asile, mais c'est aussi de penser la politique migratoire de façon générale et de desserrer l'étau aussi sur l'immigration pour d'autres motifs que l'asile.
Vous savez, il y a l'humanité qui est nécessaire, mais je pense qu'il y a le sens des responsabilités. Nous, en tant que responsables politiques,
c'est important
de réfléchir. C'est important de réfléchir aux conséquences. C'est-à-dire que les gens, déjà, il faut se donner les moyens de les intégrer. C'est important. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, on est dans des restrictions budgétaires sur tout un tas de budgets. À partir du moment où déjà on a augmenté le budget pour bien accueillir, pour créer ces places d'hébergement, si vous pensez que les gens errent, ben allez voir dans les CAES, il y a des gens qui sont hébergés de manière extrêmement humaine, et ça c'est extrêmement important. On va doubler les heures d'apprentissage de la langue, on va accompagner les réfugiés vers l'emploi. Ça c'est important, c'est des conséquences qu'il faut assumer, ça il faut le faire, mais on ne peut pas le faire pour tout le monde.
On va retourner au standard du téléphone sonne.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Laurence, bonsoir Laurence.
Bonsoir. Alors je suis enseignante et je voulais témoigner de la situation de nombreux de mes élèves qui sont dans des démarches de droit d'asile et qui vivent des situations extrêmement précaires. Par exemple, qui doivent être hébergés par le 115, donc doivent appeler le 115 soit tous les jours pour certains, soit tous les 15 jours pour d'autres, qui ne mangent pas toujours à leur faim. Donc par exemple, là en période scolaire, puisque je suis en région parisienne, le repas de cantine n'a plus lieu, et donc parfois c'est pas de repas ou que des pâtes pendant toutes les vacances scolaires. Et donc tout ça avec une scolarité qui est proposée, puisque les jeunes sur le territoire doivent être scolarisés. Et donc je voulais juste témoigner de ça, comment les gens imaginent qu'un jeune de 15-16 ans, qui est en général tout seul sur le territoire, peut allier une scolarité tranquille et positive avec ses conditions matérielles là.
Élise Fagelès, réponse pas trop longue parce qu'on a beaucoup d'appels et vous êtes deux invités qui pouvaient débattre ce soir.
Dans le projet de loi, justement, on a des conditions qui améliorent le rapprochement familial, le regroupement familial pour les mineurs qui ont le statut de réfugiés, qui sont sur notre territoire, permettent de faire venir leur famille et même de l'élargir aux parents, aux frères et sœurs, etc. Donc ça, c'est vraiment une situation. Déjà, les mineurs isolés, il n'y aura pas de dispositions dans notre projet de loi parce qu'ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et donc c'est vraiment le ministère des Affaires sociales qui doit continuer. Je crois que c'était une volonté aussi des associations que ça continue à être le ministère des Affaires sociales qui gère les mineurs isolés, mais par contre pour le regroupement familial, pour que les enfants qui sont réfugiés, sont reconnus réfugiés, puissent voir toute leur famille être accueillie, ça c'est une proposition que nous avons dans ce texte de loi et qui à mon avis vise à une beaucoup plus grande humanité.
Jean-Claude Masse.
Sur la question des mineurs, pour ce projet de loi, effectivement, n'y fait pas référence à part les certaines mesures que vous évoquez qui peuvent aller dans le bon sens. Mais je signifiais tout à l'heure que ce projet de loi, il s'inscrivait dans le prolongement d'une politique migratoire qui est déjà attentatoire aux droits des personnes sur le terrain en grande partie. Ce week-end, pas plus tard que hier et avant-hier, nous sommes plusieurs associations à avoir fait 2 jours d'observation à la frontière franco-italienne. Durant ces 2 jours, il y a environ 150 personnes qui ont été refoulées par l'État français avant même qu'ils puissent demander l'asile. Et parmi ces 150 personnes, il y avait 20 mineurs qui ont été refoulés en Italie et qui n'ont pas été pris en charge par la France et dont on a intenté un référé qui sera déposé mercredi au tribunal. Pour vous dire que cette politique-là migratoire, sur le terrain, elle est signifiante de ce qu'elle produit comme atteinte et le projet de loi qui vient va prolonger en partie ce caractère répressif.
Il y a des territoires où on voit aussi un certain nombre de personnes dont on ne peut attester de savoir s'ils sont mineurs ou pas et qui viennent pour
Ils ont été refoulés à la frontière avant même qu'ils puissent être pris en charge.
C'est qu'il faut en effet voir au cas par cas et voir beaucoup d'humanité mais beaucoup de vigilance aussi.
Réaction pour ne pas dévoyer les procédures. Je lis ce courriel. Il y a dans ce texte des dispositions en faveur des migrants, augmentation de la durée des titres de séjour, délivrance d'un titre de séjour de 10 ans pour les familles d'un réfugié mineur, renforcement de la protection des jeunes filles exposées au risque d'excision, création d'un passeport santé, aide au retour volontaire à un étranger placé en rétention. Il ne faut pas trop noircir le tableau, Jean-Claude Masse.
Oui, et puis il y a une mesure qui n'a pas été évoquée, qui est l'allongement du titre de protection subsidiaire qui passe de 1 an à 4 ans, qui est une mesure qui est favorable et qu'effectivement qu'il faut souligner. Mais ces quelques mesures-là ne font pas le poids par rapport à l'ensemble des mesures du projet de loi, qui en grande partie sont répressives. Quand vous avez des avocats de la CNDA, qui en général interviennent auprès de la CNDA, des officiers de protection publique de l'OFPRA, des travailleurs sociaux de centre, des associations comme la CIMA, des écrivains, des intellectuels, tous vent debout pour dire que ce projet de loi n'est pas tenable et est indigne d'une politique migratoire, on ne peut pas balayer d'un coup de main en disant que c'est l'humanité qui prévaut dans ces quelques lignes de projet.
Il n'est pas balayé d'un coup de main, puisque je vous dis qu'on commence un travail parlementaire sur lequel on va écouter absolument tout le monde, de manière à ce que les députés puissent avoir une connaissance des enjeux, des chiffres, des procédures, et qu'on puisse à un moment donné, en effet, être animé de bons sentiments et d'humanité, je suis d'accord.
Gérard Collomb va accepter des amendements.
Mais bien entendu qu'on va discuter avec lui, évidemment. Oui. On est déjà d'ailleurs en discussion avec le ministre depuis quelques temps.
Sur quel point avez-vous senti qu'il pourrait peut-être céder
sur certains délais, sur la manière dont on peut préserver les droits des personnes. Évidemment qu'on va discuter avec lui. C'est ça aussi l'intérêt du travail parlementaire, et je crois que c'est une plus-value du groupe La République En Marche d'être très près du réel et donc d'essayer de voir comment les choses se passent concrètement. En tout cas, moi, en tant que rapporteur, ça sera ma responsabilité de faire un parcours d'audition le plus dense possible pour que tout le monde ait une suffisante connaissance des sujets pour faire des contre-propositions constructives. Donc on a un mois et demi de travail devant nous. Je crois que ça nous permet d'arriver avec un objectif. Nous, on ne va pas dévier de cet objectif-là. On veut pouvoir accueillir mieux et être ferme sur les personnes en situation régulière, mais en garantissant les droits des personnes.
Jean-Claude Masse, allez-y.
Parlons de fermeté. En ce moment, la machine à expulser via les centres de rétention est complètement affolée. Nous, dans les centres de rétention, ces dernières semaines, sur les deux derniers mois, on fait le constat qu'une personne sur deux qui est enfermée en centre de rétention est libérée par un juge parce que le juge sanctionne une pratique illégale ou abusive des préfectures. D'ores et déjà, aujourd'hui, cette politique migratoire-là, elle enferme de façon illégale. De quel état de droit parlons-nous? De quelle responsabilité parlons-nous tous les deux quand un état, une préfecture, enferme une personne sur deux de façon illégale? Et vous voulez, sur ça, rajouter un projet de loi, ou en tout cas défendre un projet de loi, qui entend prolonger la rétention et qui entend encore aggraver cette logique de machine à expulser à tout craint.
Qui permet de faire appliquer les décisions de quitter le territoire lorsqu'elles sont prises.
Nombreuses réactions sur le site.
C'est ce que j'appelle appliquer la loi, en effet.
Sur le site de l'émission, voici ce courriel. En 1978, la France a accueilli 140 000 réfugiés boat people du Vietnam en quelques mois. Il n'y a pas eu de tri parmi eux. Or, ils ont été rapidement intégrés et reçus par la population. Pourquoi ce refus absolu d'accueil aujourd'hui? Serions-nous devenus trop pauvres pour accueillir l'autre?
On a eu 100 000 demandes d'asile l'année dernière. C'est une augmentation de plus de 20% par rapport à 2016. Donc en 2017, on a 43 000 personnes qui ont eu le statut de réfugié. On ne peut pas dire qu'on n'accueille pas, on accueille. Je vous parlais des demandes donc de réinstallation faites par le président de la République, donc 10 000 personnes entre 2018 et 2019 qui vont être cherchées directement dans les camps du Haut Commissariat aux réfugiés et donc pour leur extrême vulnérabilité qui commence à arriver. Moi, j'en ai accueilli sur mon territoire avec Gérard Collomb une cinquantaine de familles de mères isolées avec enfants et qui tout de suite sont arrivées avec le statut de réfugié et parties dans un parcours d'intégration avec l'association Forum Réfugiés qui les a prises en charge. Et ça, c'est des mesures qui nous montre bien qu'on accueille et qu'on veut accueillir.
Jean-Claude Masse, pas trop long parce qu'on a un appel au standard. Christian qui va intervenir.
Juste remettre dans le contexte, la France, effectivement, 100 000 demandes d'asile. C'est après l'Allemagne et après l'Italie. Mais si on rapporte, donc troisième en Union européenne, mais si on rapporte à la taille de la population en France, ce nombre de personnes place la France à un rang beaucoup plus éloigné de l'Union européenne en termes de capacité d'accueil et de pays accueillants.
Christiane est au standard. Bonsoir Christiane.
Bonsoir. Je voudrais revenir sur la réduction des délais concernant l'accueil. Oui. Les gens qui arrivent, on dit migrants. Je voudrais parler des demandeurs d'asile. La plupart d'entre eux ne peuvent pas déposer leur demande avant 10, 15, 20, 25 jours, parfois 45 jours. Pourquoi ? Parce que
l'organisme, le pôle qui est chargé de les accueillir et de leur demande de prendre leur demande d'asile est saturé et ne le fait pas. Donc déjà, la France ne respecte pas les délais qu'elle s'est fixés, à savoir 3 jours. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas demander l'asile, qu'on met en centre de rétention et qu'on renvoie dans leur pays, simplement non pas parce qu'ils sont illégaux, ce que dit l'État français, mais parce qu'ils n'ont pas pu demander l'asile. Deuxièmement, je voudrais parler de ce qui se passe réellement sur le terrain. Je pense que les Parisiens qui sont passés à La Chapelle ou à Jaurès ont vu que les gens qui arrivent en France, ils sont dehors. Comment est-ce que quand on est dehors, on peut déposer, fabriquer, écrire un dossier en français? Je rappelle que la demande d'asile doit se faire en français. Quand on ne parle pas un mot de français et qu'on vient d'un pays dans lequel il n'y a même pas une langue latine, c'est-à-dire on n'a même pas un mot d'alphabet pour pouvoir écrire. On n'a aucune sécurité, on n'a pas d'assistance sociale de référence, on n'a pas d'éducateur de référence, on n'est pas dans un endroit qui est abrité, dans lequel il y a des personnels en nombre suffisant qui sont formés et qui vont pouvoir établir avec ces personnes, dont je rappelle qu'elles sont multitraumatisées, la plupart des gens ont vécu, ceux qui sont passés par la Libye, on voit ce qui s'est passé, ceux qui viennent du Soudan ont souvent été des gens qui ont été torturés. Comment est-ce que quand on est polytraumatisé, qu'on est dehors, qu'on vit la peur, qu'on est confronté à une multitude d'adultes qui vous posent des questions, qui vous demandent d'écrire, de donner votre nom, de remplir des papiers que
Christiane,
vous n'avez jamais vu, être devant des ordines. Non, je vais finir, s'il vous plaît.
Mais non, comment on n'a plus que 2 minutes. Allez-y.
Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut déposer en si peu de temps un récit qui ne soit pas débouté ensuite, dont on nous dise « Ah, oh ben monsieur, vous avez menti », parce que c'est ce qui se passe.
Donc, Christiane, c'est formidable d'avoir entendu. Je voudrais que nos invités puissent vous répondre, parce que votre témoignage est formidable et très bien documenté. Et sur ce point, sur tout ce que vous avez évoqué, Christiane, Jean-Claude Mas, vous intervenez, vous, à la CIMADE.
Mais Christiane a tout dit, ça prouve bien que les personnes ont besoin de temps. Ont besoin de temps pour se poser, ont besoin de temps pour construire leur parcours, leur récit, pour pouvoir être accompagnés. Or, dans ce projet de loi, s'il y a un rejet de l'OFPRA, le projet de loi propose de réduire le délai de recours, de réduire le temps où ces personnes vont pouvoir à nouveau constituer leur récit, trouver un traducteur, trouver un accompagnement, éventuellement aller chercher des pièces complémentaires. Donc on est bien sur une restriction de droit qui va dans l'esprit de ce que dit Christiane, c'est-à-dire que on met la pression sur les personnes pour gagner du temps sur le délai d'instruction au détriment de leur capacité à pouvoir ensuite mieux se défendre.
Je suis désolée, mais c'est vraiment pas sur le recours qu'elle nous interrogeait. Elle nous interroge sur deux choses sur lesquelles nous voulons précisément agir. Elle nous parle du préaccueil. Avant même de déposer la demande, c'est exactement ce que je vous dis, il faut réduire le délai en préaccueil. On ne peut pas rester 3 semaines sans même avoir déposé une demande en préfecture. Il faut rajouter du personnel en préfecture pour désengorger, mais il faut qu'on travaille sur ce préaccueil, c'est essentiel. Les personnes qui sont dans la rue, vous décriez tout à l'heure les centres d'accueil et d'examen des situations administratives. C'est exactement ce qu'il faut faire, que n'y ait plus personne dans la rue, qu'ils soient hébergés dans le même temps qu'on les aide à suivre leur situation administrative, qu'on les suit sanitairement, parce que oui, ce sont des personnes cassées, ce sont des personnes qui ont souffert,
ce sont des personnes qui doivent être suivies
et qu'on doit aider à constituer leur dossier et à suivre leur situation administrative. Nous ouvrons ces places d'hébergement, nous ouvrons ces possibilités exactement comme en Allemagne, sur le modèle de l'Allemagne. Ce sont des centres intégrés, hébergement et
suivi. Qui vont trier les personnes entre le bon migrant et le mauvais migrant.
Non, on va aider ces personnes à constituer leur dossier. On va les aider, on va les suivre.
Puisque certains d'entre eux iront en assignation résidence ou éventuellement.
Vous ne pouvez pas dire que proposer de l'hébergement et du suivi, ce ne soit pas la bonne solution. C'est exactement ce qu'il faut faire.
La suite du débat au Parlement, avec des discussions qui s'annoncent animées. Merci à nos invités, Élise Fagelès et Jean-Claude Mas. Merci.